L'épluche livre.
Alors vous allez avoir droit à une recette exceptionnelle.
Inédite.
Que faut-il pour faire
Pas grand chose. Voilà, qu'on coupe en deux.
Bien propre.
Ici, ça va me servir d'épluchure.
Oui, ce livre, il est beau. Il a une belle typographie. Il a une belle gueule. Les livres ont une belle gueule comme les gens.
C'est un peu comme une fleur en fait. Hein. C'est plein de pétales qui sont en strates comme ça. Et il s'agit de venir gentiment les dégager.
Quand on lit des livres passionnants, ça devient même très passionnant.
Et je viens gratter, en fait, les premières couches, comme ça.
Oui, ce goût des mots, eh bien, il est resté en moi avec beaucoup de vivacité.
Et on referme le couvercle et on mange. Des cornichons, de la moutarde.
Chers auditeurs, bonjour. Une émission un petit peu spéciale aujourd'hui, puisque nous célébrons la victoire, du moins, le prix du deuxième concours de nouvelles organisé par la librairie. Donc cette année, c'était un concours donc de nouvelles policières, ouvert à tous et à toutes, dans la limite de 30 000 signes par texte concurrent. C'était un concours... parrainé par l'auteur de thriller montpelliérain Nicolas Nuten. Et ce concours a été gagné par un certain Benjamin Viard. Benjamin, bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Bah écoutez, très bien.
On est en duplex aujourd'hui.
Voilà, tout à fait.
Donc, vous n'êtes pas tout à fait du coin. Racontez-nous, vous venez d'où?
Eh ben écoutez, là, je suis en train de descendre un chemin en Haute-Savoie.
Très bien.
Donc, c'est à peu près là que je me situe.
Vous êtes haut-savoyard, c'est comme ça qu'on dit.
Voilà, c'est ça, tout à fait.
Et vous avez soumis donc votre nouvelle Phénix au concours organisé par la librairie cette année?
Oui.
Oui. Est-ce qu'on peut présenter un petit peu votre nouvelle? Comment vous est venue? Déjà, comment avez-vous entendu parler du concours?
Oui, tout à fait. Ben, écoutez, le concours, j'en ai entendu parler sur Internet. Donc en fait, il y avait effectivement une affiche de communication qui avait été faite et j'ai dû, il me semble, la voir sur un site qui regroupe, qui fait la liste en fait de tous les concours accessibles, etc. Vous avez le nombre de signes, les règles, le règlement, etc. Et donc voilà, ça semblait convenir à cette nouvelle. Et donc, je l'ai envoyé. Voilà.
Et alors, quelle est l'histoire de cette nouvelle?
Alors, l'histoire, c'est une enquête policière un peu particulière, donc petite, hein, puisque on est sur une nouvelle, et qui est en fait qui a la particularité d'être racontée par un narrateur un peu atypique, qui est en fait ce qu'on appelle un taulard, ou en tout cas quelqu'un qui est enfermé dans une cellule, voilà, un prisonnier. Donc voilà, c'est raconté, mais on le sait pas encore tout de suite, et c'est raconté un petit peu comme ça, tambour battant, jusqu'à la fin.
Et donc vous avez été, votre texte a été choisi par le parrain de cette édition comme étant le texte ayant le prix du concours de cette année. Félicitations.
Merci beaucoup, en tout cas.
Mais avec plaisir, c'était très chouette. Alors à la librairie, nous avons reçu plus de 40 textes. Nous avons compté les morts, si je me trompe pas, il y avait 161 morts. Donc,
D'accord, ok.
Oui, c'était une hécatombe, on peut dire ça comme ça. En tout cas, des textes très très plaisants à lire. C'était très compliqué pour l'auteur de départager tout le monde, mais c'est vrai que voilà, on va l'écouter, puisque cette émission, comme je disais, est un peu spéciale, et le règlement du concours donc indiquait bien que la nouvelle lauréate serait lue à la radio sur les ondes de Divergence. Donc nous avons la chance d'avoir avec nous Robin, qui lira cette nouvelle.
Merci à Robin.
Mais oui, merci à lui. Heureusement qu'il est là. Juste une petite dernière question avant de vous laisser. Comment avez-vous écrit ce texte? Comment vous est venue cette idée du texte?
C'est une idée qui m'est venue un petit peu, qui m'est un peu tombée dessus comme ça. Bon, c'est un petit peu, ça paraît toujours un peu très très auteur de dire les choses comme ça. Mais en fait, j'écrivais en fait au départ une nouvelle qui n'avait rien à voir. Et qui m'a mis du temps, j'arrivais pas à aller au bout, etc. Donc à savoir, c'était la première nouvelle que j'écrivais. Je me sentais un petit peu un petit carcan. Et en fait, tout d'un coup, j'ai eu l'idée d'écrire une phrase, donc qui a été la première phrase de la nouvelle. Et en fait, c'est sorti après, c'était plutôt un peu comme une fulgurance. Vraiment, c'était... c'était assez inattendu pour moi. Et en fait, j'avais la voix du narrateur dans la tête et en fait, c'est sorti en un seul jet. Donc rapidement, sachant que ça faisait plusieurs mois que je travaillais sur la première nouvelle. Et en fait, je l'ai laissé de côté. Et je me suis concentré là-dessus. Et voilà, en quelques jours, cette nouvelle est écrite.
Il y a une muse qui vous a inspiré. Il doit y avoir une muse du roman noir, certainement, qui a dû vagabonder près de chez vous.
Merci. Avec le pistolet sur la tempe.
Ah oui, bah non. J'espère qu'elle était quand même plus accueillante, plus agréable.
Non, un petit peu plus.
Bon, je vous remercie en tout cas. Chers auditeurs, je vous laisse écouter cette super nouvelle. Merci beaucoup, Monsieur Via.
Merci beaucoup. Au revoir.
Quintal aura 4 ans quand les couettes seront mûres. Que va-t-on lui donner? Un jeu de quilles? Un bilboquet?
Un bilbo quoi?
Un bilbo je sais pas quoi.
Le commissaire Legrand, il se sentait bien. Son poing gauche lui faisait un mal de chien, mais il se sentait bien, vachement bien même. 10 ans de traversée du désert qui s'achevait ici, sur un coup de poing. Douloureux le coup de poing d'ailleurs. Mais c'est une bonne douleur, ça le fait rajeunir. Faut dire qu'il s'était drôlement encrassé depuis le temps, il encaisse moins bien qu'à l'époque. Au tout début, quand c'était encore qu'un petit bleu, bien frais moulu de l'école, une sacrée belle époque. Enfin, belle, ça dépendait pour qui. De son côté, ça allait, mais du côté des voyous, c'était autre chose. Ils en ont secoué des pruniers et distribué des sacrés beignes aussi, les descentes à la Clint Eastwood. Il adorait. Coup de pied dans la porte, bim, bonjour, au revoir. C'était un peu sauvage comme méthode, mais en face, il y avait du lourd. Trafic, meurtre, drogue. Tout ça avait le mérite de l'entretenir. Un peu gras sur les bords, mais affûté le mec, hein. Pas besoin de régime minceur, au lieu de quoi il a été promu encore et encore pour faire plus que la paperasse, du serrage, de paluche, de la petite sauterie ministérielle, et toujours en vie, s'il vous plaît, hein. Le revers de la médaille. Quand on coffre autant de crapules que lui à seulement 40 balais, c'est qu'il portait bien son nom. Le grand, le prodige, la star des services, résultat des courses, béco, photo et kilo à gogo. Mais ça, c'est du passé, il y a plus de 10 ans. Tout ça, ça a fichu le camp au paradis de Coluche et de la fumée de cigarettes de Marlboro. Heureusement qu'il lui reste quelques bons souvenirs au Legrand. Parce que ses dernières années de service, c'était pas jojo, hein. Problème au boulot, problème à la maison, le divorce, la baraque vide, l'alcool. Pour la faire courte, le bon cocktail pour finir sur le carreau comme une loque à la 50aine et se taper ensuite 10 bonnes années de galère. Jusqu'à ce fameux coup de fil du boulot. C'était un dimanche, ça pleuvait à s'en tremper les boyaux. À peine s'il avait entendu le téléphone sonner, le Legrand. Qui c'est qui pouvait bien l'appeler un dimanche? Ça devait être de la pub, genre Free, ou le service après-vente d'un truc qu'il avait même pas jamais acheté. Pas pressé du tout le pépère, hein. Il avait arraché son derrière de son fauteuil, bien tassé, et s'était traîné à la cuisine, lui et sa dégaine bedonnante aux charentaises trouées. Petit vieux avant l'heure, 0-1 sur le cadran, indicatif parisien, et si c'était le boulot? Ah, très marrant. Il en était à un point où il riait de ses propres âneries. Le mystère du type, enfin bref, c'était pas si marrant en fait, parce que le boulot, il en avait plus depuis un bail. Ah oui. Il était plus commissaire à ce moment-là, il était même plus rien du tout. Juste un ancien fonctionnaire qui avait salement dégringolé à l'échelle de la réussite. Oh, je cause, mais en attendant, il prend son temps le Legrand. Il va le décrocher ce foutu bigot, ça urge là, et v'là qui remet le couvert avec son jeu à la noix. Bon, pile, c'est la pub, face, le boulot. Eh, grouille-toi Legrand, sinon ce sera ni l'un ni l'autre, pas trop tôt. Hein. Il la joue grand seigneur, toute la mise sur le petit travailleur marocain de chez Free, et paf. Ça n'avait pas manqué, hein, comme d'hab. Il s'était planqué. Quand ça veut pas, ça veut pas. Ah, face. C'était vraiment le boulot. Putain. Maurice en plus. Sa Majesté Monsieur le Commissaire Maurice Bonnard, de la 36, à Paris. Disant qu'il avait pris la place de Legrand. Qu'il était calife à la place du calife. Et en disant, pas un coup de téléphone. Le fumier, il doutait de rien, hein. Il fallait qu'il appelle un dimanche, en plus, pendant l'émission de Drucker. Bon... Je passe rapido sur les salamalek d'usage et l'ambiance craignose de ce coup de fil pour en venir à ce qui nous intéresse. Grosse embrouille au quai des Orfèvres. Et que ça déblatérait, t'imagines pas la bérésina que c'est ici. Toute la Crimée est sur les dents en ce moment à cause des Tchétchènes qui disaient l'autre. Je comprends leur douleur, les Tchétchènes. C'est pas de la tarte. Je pourrais vous en dire sur le sujet, mais faut pas que je t'engouille de trop dans ma causerie, sinon vous allez dégobiller à la GG. Un copain de la rue Montalembert qui... Ah ok, je continue. Pareil que dans le bâtiment des Condés, il y avait comme une épidémie. Ou je sais pas quoi, un truc bien dégueu, genre gastro, mais avec plus d'hémoglobine. Et v'là pas qu'ils étaient presque tous tombés comme des mouches camées. Restait plus que le fond de la poubelle, si vous voyez ce que je veux dire, à part la petite Solange. Un de ses lieutenants, l'air coince-coince, met des dents longues à vous racler le sol jusqu'à la rocaille. Une branque d'opportunistes, comme lui, quoi. Mais ça, il se gardait bien de le rappeler, hein. Et puis, blabla, machin, il continuait de jouer de la flûte, un peu comme l'autre mec, là. L'autre qui se baladait dans la forêt avec son slip en peau de bête. Celui-là, qui avait des pieds de chèvre et qui... Pan. Voilà, le bonard, il sifflotait comme ce bon vieux Pan à sa période Olympia. En attendant, le Legrand, il en avait marre de poireauter. Et même qu'il lui venait une sérieuse envie de pisser. La vessie qui flanche, lâche quoi, enfin vous voyez. Tu attends quoi de moi au juste ? Qu'il avait fini par lui sortir. Eh ben, il fallait bien qu'il crache le morceau, le chialeux de la tour pointue. Le 36 si vous préférez. Blabla, machin, une histoire de disparition dans le petit bled de chez Legrand. Que ça rappelait franchement l'affaire du serpent, hein. Que fallait faire vite, hein, avant que les rapaces de journalo les terminent façon steak tartare, hein. Que les Tchétchènes, il les lâchait pas. En plus qu'il avait que cheat personnel sous la main. C'est là que Legrand, il a commencé à capter. Il sortait plus beaucoup de chez lui, mais il y avait toujours la télé. Ça revenait à la une tous les ans, comme la grippe. Le serpent, c'était un tordu de chez tordu, hein, de quoi faire passer le Mérine à son époque pour un petit chien-chien à sa mémé. Et bon sang de bois que fallait le chatouiller, le Jackie. Que j'en sais quelque chose, tiens. Failli me prendre une bastos entre les deux yeux à cause d'un mec qui avait dit à Marcel, qui avait dit à Serge et qui avait dit à Mérine que j'avais tapé dans le pognon du braco de je sais plus quelle banque. Enfin bref, Legends. Vous l'avez pas connu, vous, le détrousseur des coffres en velours, l'ennemi numéro un qu'il appelait tous. Un prince que c'était, le Mérine. Pas comme l'autre serpent, il me fait montrer les poils, rien qu'à y penser. 15 pauvres mecs qui avaient pris la poudre d'escampette et qu'on avait retrouvé en petite coupure, genre pièce de puzzle. Un truc propre et tout. Le cinglé de serpent, il faisait dans la dentelle. Hein. Vas-y que je te retirerai toute la viande et t'astiquer les petits bouts pour les coller et en faire de la sculpture. Des tas de serpents, des petits, des grands, qu'on retrouvait en expo dans des taudis crasseux. Pas qu'il se prenait pour Picasso, l'autre. Hein. 10 ans que la 36 et tous ses seins lui couraient aux miches comme pas deux. Pas d'indice, rien. Juste sa petite griffe d'artiste en bas de ses œuvres bizarroïdes. Un prénom en 3 lettres que je vous dirai pas d'ailleurs. Faut pas croire, hein. C'est qu'il ménage son suspense, le Bibi Père Castor. Et vous savez pas la meilleure, le bonard, Vlatipa, et qu'il avait besoin du Legrand pour sa petite affaire. Un service entre mecs de la boîte qui disait, histoire de lui titiller l'orgueil. En discretos, hein, bien sûr, hein, c'est pas de l'officiel. Hein. D'où le dimanche, vous voyez. Un truc pas trop compliqué, faire remonter quelques infos, gagner du temps avant qu'un de ces contaminés de lèche-pantoufles vienne renifler la piste sur place. Une petite enquête de campagne, peinard. De campagne. C'est comme ça que c'était sorti de sa bouche dans Pafé. J'hallucine le culot du mec, quoi. Bref, je referme la parenthèse, mais de toute façon, vous avez pas loupé Graillot. Il avait eu encore un peu de flûterie et à la fin, crac, le bonard, il avait raccroché aussi vite que Lucky Luke. Il lui faisait déjà son numéro de la veuve éplorée, fallait-il pas qu'il se loupe à la sortie, hein. Que le loser de Legrand, il oublie pas qui c'était le Sancho Panza et qui c'était le Don Quichotte ou le contraire, je sais plus bien. Dans sa cuisine, le Legrand, il avait fini la bouche en cul de mammouth. C'est comme si on lui avait coupé le jus. Pourtant, on peut pas dire qu'il manquait de picole chez lui. Hein. Attention, pas de moquerie de ma part, hein. C'est pas mon genre. Hein. En plus, le grassouillé, il a eu bu 3 fois rien ce matin-là. Hein. Une ou deux bières et quelques généreuses goulées de whisky. Le petit brunch du dimanche, à la sauce irlandaise. Mais rien de bien méchant. Hein. En fait, je crois qu'il avait juste arrêté de respirer. Ah, le Legrand. Il flanchait comme un gamin devant le sapin de Noël. Manquait plus qu'ils se mettent à lui rouler des perlous sur le coin du museau et on avait tout l'orchestre. Bah ouais, l'émotion, imaginez un peu. Ce type-là, il avait tout perdu. L'enfer, il connaissait. C'est pas qu'il me fait penser au Morphée, un autre siffleur de pipeau qui allait chercher sa douce dans le grand barbuck des âmes. Mythologie inca. Un peu de culture, ça mange pas de pain. Eh ben, le Legrand, c'était pareil. L'air moins Apollon quand même, hein, faut pas pousser. Et tout vautour qu'il était le bonard, il venait de lui filer l'occasion de se refaire une santé, de plonger dans le barbuck de la loose pour aller se repêcher sa dignité. Il se pouvait même qu'il raccroche avec les paillettes du showbiz, qui sait. Mais avant de déterrer ce vicelard de serpent et de décrocher le pompon, faudrait peut-être mettre la petite sonnette du matin. Qu'est-ce t'en dis, Legrand ? C'est pas qu'il se levait à midi, mais presque, la marmotte, le grand dormeur, bref. Je vois vos petites sourires en coin des babines. Figurez-vous que ce matin, donc le lendemain, il était au garde à vous à 9h pétante. Et costumé en plus le bougre, pas de quoi fouetter un coq vous me direz, mais c'était un bon début. Sur le perron de sa bicoque en location, il avait mis sa main devant sa bouche et soufflé dedans pour s'assurer que son haleine elle fasse pas d'homicide involontaire ou te mette un éthylotest dans le coma. Ouais, bof, ça pouvait être pire mais ça passait. Il se sentait de nouveau prêt à sortir de sa caverne, Aristote, et de l'affronter, ce vilain monde des humains. Et c'est pas dire s'il le serrait fort comme un étrangleur au bout de calepin et son stylo bic, le Maigret des fonds de tiroir. Il n'y avait pas de transition numérique ou que sais-je, entre lui et le serpent, ça allait être à l'ancienne. Au volant de sa vieille guimbarde, une Renault 5 qui crachait noir, il se disait qu'il avait sûrement rien de mieux que de résoudre l'affaire de sa vie en commençant par se payer une belle entrecôte. Je vous parle pas en codé ou quoi, hein. Que de se payer une entrecôte, ce serait une sorte d'image pour dire qu'il laisse cuisiner un type dans le coin d'une ferme. Non, 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 non. Il allait vraiment se la chercher à la boucherie du village, sa barbaque. Le mec qui avait disparu il y a 2 jours. C'était le fils Morel. Du pot qu'elle était bonne, la cam du père que par-dessus le marché. Il avait bien besoin de se rencarder sur le fiston envolé. Quelques minutes plus tard, boucherie Morel sur la devanture en rouge et blanc. Sur la porte, le petit écriteau ouvert. « Vas-y, entre, fais pas le timide. » Le soir même, note le grand. Il se régalait de sa petite assiette entrecôte pâte au beurre. La petite virée l'avait requinqué. Il se sentait de nouveau vivant. Un peu d'adrénaline dans le buffet que ça lui avait fait. On va pas se mentir. Il avait retrouvé son appétit aussi. Pas de se baffrer des montagnes hein, de graille. Hein. Ça, il savait bien le faire. Non, non. Prendre le temps de savourer ce qu'il se mettait sous la dent. De laper avec la langue le jus de sang dans le fond de l'assiette, salé et beurré, comme il se doit. En fait, il se ressassait un nom dans sa tête. Kevin Michou. Un mec bien, apparemment. La quarantaine bien passée, qui habitait le coin depuis peu et qu'on savait copain du fils Morel. D'après le père, un gars du village les aurait vus ensemble la veille de la disparition. Et devinez quoi ? Ce fameux Kevin, il avait une petite boîte de peinture qui tournait bien. Ouh, ça n'avait pas fait 2 tours dans le cerveau de notre cher ex-commissaire. Il tenait une piste, il le sentait dans ses tripes houblonnées. Il y avait de quoi, hein ? Peintre, sculpture, vous le voyez pas, le petit lien artistique de rien du tout avec le gentil monsieur timbré qui fait joujou avec du cure-dent cannibale. Les jours suivants, le Legrand, il s'était pas tourné les pouces. Il avait retrouvé la trace de ce Kevin et s'était mis assez de provisions dans le coffre pour filer le poisson en loose dé. Partout où il allait, le Legrand y était aussi à lui coller au train. Il notait dans son calepin les déplacements, les heures, les gens avec qui le Kevin y parlait. De temps en temps, il posait des petites questions discrètes au caissier de la supérette et à la boulangère pour se faire un meilleur portrait du suspect. Le père Morel devait dire vrai. Kevin Michou, il était propre de chez propre, hein. Boulot de 8h à 19h et retour à la casbah. En fait, au bout de 2 semaines de filature, le Legrand, il n'avait rien de concret. Je savais pas trop pourquoi il continuait de le suivre. Une obsession, le syndrome de l'enquêteur qui devient fou dans sa bagnole ou bien qu'il devait lui trouver du venin au coin de la bouche. Faut dire que notre Legrand, il gambergeait dans sa caisse jour et nuit. Ramolo qu'il était, il enquillait plus trop le manque de sommeil. Et puis il était pas tout net, hein, si vous voyez ce que je veux dire, là qui se mettait à voir du Kevin dans tous les coins. Et s'il se tapait un roupillon dans son taco, un cobra venait lui sauter à la gorge. Le réveil en fanfare, palpitations, en toute panoplie. Mais ce vendredi-là, c'était pas comme d'habitude. Le Kevin, il était bien rentré à sa baraque le soir, mais il en était sorti au bout de 30 minutes avec sa camionnette. Il avait roulé jusqu'au petit bout de forêt à côté du patelin. Planqué à 100 mètres derrière, le Legrand, il attendait que le loustique disparaisse dans les bois pour l'y suivre. Et c'est parti, coup de sifflet, le sprint, la totale. Le Legrand, il nous refaisait le remake des jeux de 92 à Barcelone. Sauf qu'en rentrant dans les bois, il tenait plus du sanglier asthmatique que de Jesse Owens. Enfin bref. Manque de peau, le Kevin il avait quitté le chemin balisé. Par où qu'il devait aller le grand maintenant? C'est pas le genre Davy Croquette à se faire de la cuillère aux champignons. Il connaissait rien à ce coin paumé. Ça se jouait au pifomètre. Par là, du coup, la belle affaire. 15 minutes de course non-stop et un Legrand au bord de la crise cardiaque. Et pas de Kevin. À la place, une espèce de cabane de chasseurs abandonnés. Notre Legrand, il approchait en retenant son souffle. Il avait le sang chaud, comme celui d'un légionnaire. Ça serait lui ou l'autre. Pas de quartier. La poignée bougeait, puis la porte. Un pied qui sortait. Pas le temps de réfléchir, le coup était déjà parti tout seul. Le commissaire Legrand, il se sentait bien. Son poing gauche lui faisait un mal de chien, mais il se sentait bien, vachement bien. Mais ça l'avait pas fait longtemps, sa petite joint. Plus de 20 ans, au moins, qu'il était plus servi de son poing, comme d'un missile tactique, et voilà qu'il allongeait les mauvais gens. Le curé du village, en plus. Le grand. Il avait beau le tâter du bout du pied, ça bougeait même plus. C'était le coup de poing de trop. Sûr qu'on le louperait pas aux assises, hein. Il se voyait déjà sur le banc des accusés, menottes aux mimines, et le baveux à côté qui en ferait de la peau de chagrin pour lui faire gagner quelques années de zonzon. Adieu les paillettes et le showbiz. Affalé sur le sol comme une guimauve, et lui venait le tournis de sa vie, au Legrand. Il se tenait la tête entre ses mains en miaulant des petits bruits de bêtes écrasées sur le bord de la route. À cette heure, le pauvre curé, il devait être en train de passer la douane du paradis. Remarquez, il avait déjà sa tenue de cérémonie, l'autre. Hein. Pas de chichi, on pouvait le coller direct dans la boîte et mettre 6 pieds sous terre. Col blanc, robe noire, pompe noire, chaussettes noires. Hé, c'est quoi ça, se dit le grand, un tatouage sur la guibole? De là où il était, il en voyait que la moitié, à cause de la robe qui recouvrait. Fallait mettre la main à la patte, hein, si je puis dire. Hein. Sauf que le grand, il osait pas le toucher. Hein. Il se sentait des remords de l'approcher. Pas qu'il soit très porté sur le chapelet, mais soulevé à un futal d'un mec d'église qui venait tout juste de refroidir, ça devait pas lui filer des points auprès du Seigneur. On sait jamais qu'un peu de respect pour les morts, ça jouerait en faveur du jour du grand redressement fiscal. À 3, il se lancerait. 1, 2, 3, pas possible, un serpent. Et pas le petit serpent caché sous le nid de pâquerette. Hein. The serpentin, mouse, costaud, tout croque de sortie, écailles brillantes comme de la quincaille en or massif. Ah bah, je peux vous dire qu'il en fallait pas plus. Hein. Des films de dingue qui commençaient à se faire, le grand. Avec affiche géante et toute la tournée des grands-ducs. Et pas la belle gueule de notre bébelle nationale sur le paplard de ciné, hein, la sienne, et un serpent clamsé dans la paluche comme un trophée de chasse. Pas fou, le Legrand, dans sa tête farcie à l'agneau. Il se poussait des scénars plus vite qu'un Godard sous coco. Mais fallait qu'il redescende un peu sur terre. Le curé, il n'était pas né avec une croix en argent dans la bouche. Hein. Il devait avoir fait les 400 coups quand il était minot. Le bon padré Sainte-Nitouche. Puis il s'était rangé quand il a eu marre de faire le tour des rades et des bistrots. Le Legrand. Il devait se faire une raison. Hein. La chasse aux serpents, c'était pas de son niveau. Trop vieux, trop de picole. Trop à la masse, en gros. À part dans une des tôles du pays, il pouvait pas être plus au fond du trou que maintenant. Et pour un trou de caniveau. Hein. Le Legrand, il s'était mis à renifler l'air comme un bestiau à l'affût. Il y avait comme une sale odeur qui traînait, ça sentait le mazout plein pot. Un truc à te faire décoller les poils du pif, moquette et plafond. Sa main a coupé que ça venait de la cabane. Une intuition de flic. Sa dernière chance de s'en sortir avec la médaille. V'là qu'il essayait de se lever ce coup-ci. Oh le chantier, t'inquiète pas le grand, on sera coupé au montage. Fais gaffe de pas lui écraser sa caboche au curé, hein. Manquerait plus qu'on lui colle de la torture sur cadavre. Enfin bref, ça y est, le v'là qui rentre. Oula, pas franchement la caverne d'Ali Baba ici, un pauvre balai en paille dans un coin et des étagères pleines de bricoles dessus, de la poussière comme s'il enneigeait, mais pas de moisissure ou de jus de rat. D'où que ça pouvait venir cette horreur de derrière de putois. Mais il était persuadé de flairer le filon, notre commissaire Lafouine. L'instinct de chasseur, ça lui chatouillait les doigts de pied et les mollets, qu'il se disait comme en 95 avant de choper le fameux Raimondo, roi de la bicrave. À cette époque, les collègues avaient retourné toute l'épicerie, mais il avait fallu que Legrand et son pif s'en mêlent et qu'il trouve le passage secret dans le mur de la réserve, le Raimondo. Il s'était fait cueillir en plein mois de juin sur un joli tas de pognon et de poudre blanche. Affaire classée. Je vous ai pas baratiné en disant que c'était une pointure. Hein. Et le serpent, c'était bien le genre de loustique à jouer les fantomas. Hein, en se faufilant là où on y verrait que du feu. Ni une, ni deux, le Legrand, il s'était mis à tout bazarder jusqu'au dernier pot de peinture qui voulait pas partir. Il tirait dessus en soufflant comme une femelle en train de pondre quand d'un seul coup, ben, y a tout qui est parti. Partout à tisse, c'était le ciel qui lui tombait sur le crâne à notre obélix. Sauf que c'était l'étagère et le bout de mur derrière en forme de porte, vous voyez. La vache, ça schlinguait à mort. On n'y voyait que dalle, il faisait plus noir que dans la mine de Bruyères-la-Buissière. Où le cousin Fredo, il crachait ses poumons. Hein. Va falloir qu'il lui trouve une loupiote, hein, sinon on va le perdre dans le charbon. Le grand, regarde contre le mur qui aurait pas un petit bouton. Oui, mais plus à gauche. Non, à gauche. Voilà, à gauche que je t'ai dit, hein, bon, c'est bon, bouge plus. Je sais pas, mais moi, il me fatigue. Ah bah voilà, c'est mieux que la lumière soit qu'il aurait dit le Maccabée. Bingo ! Sortez la crèche chez le petit Jésus. C'était Noël avant l'heure. Sauf que sous la barbe blanche, il devait se cacher ce bon boucher Morel. Parce que là, il avait beau avoir déjà vu des trucs pas chouettes, le Legrand, il en menait pas large. Il y en avait de partout sur le plan de travail, à gauche, et que ça dégoulinait en plus de ça. Une ribambelle de bouts d'humains en pagaille, un pied là, une main ici, des bouts de bidoche, de je sais pas où, et des sacs poubelles par terre. On était comme qui dirait dans l'atelier de l'artiste, dans les coulisses de l'art. De l'autre côté de la pioule, il y avait une autre table avec par-dessus un bidon d'acide ou de javel, et des bouts d'os sculptés façon tailleur de pierre. C'était le bout de la chaîne, la petite touche finale avant de finir en Picasso. Sûrement qu'il était là, notre disparu. Si vous voulez mon avis, je vous dirais qu'il fallait même être sacrément physionomiste hein, pour le remettre. Hein. Un beau serpent et en guise de trombine de reptile, le crâne d'un mec percé sur le dessus comme la petite étoile sur le sapin. Plus le petit blaze d'artiste sous le serpent. Quand même, une drôle de coïncidence, non? Mais pour notre Legrand, pas le temps de pinailler. Il cherchait déjà son portable avec son manteau, avec une trombone, du tonnerre, de l'excitation, de la trouille. C'était un mélange des deux. Il allait tous les faire appliquer, la cavalerie, les journalos et peut-être même son ex, histoire qu'elle se morde les doigts de l'avoir jeté comme une vieille chaussette. En marchant vite vers la sortie, il se raclait la gorge. Il était déjà sur le plateau du 20h de DF1. Par où qu'il a commencé son histoire et le costume. Il allait quand même pas mettre ses guenilles toutes crado, ça faisait pas très moderne. Allez. Il a cassé la tirelire et se choisirait des fringues de star. Et puis, il est où le curé?
Psst, Legrand.
Ouais, quoi?
Regarde derrière toi.
Mon père, je vous croyais.
Boum.
Trop tard, Legrand, trop tard. Au fait, j'ai pas fait les présentations. Moi, c'est Claude. Claude Roche. Mais appelle-moi Claude. Je laisse le Roche au maton et au pimpin de justice. Claude, je préfère. Je veux que vous soyez à l'aise avec moi. Ici, c'est la famille, la petite cheminée de l'amitié qui va vous réchauffer les paluches froides. S'il y en a qui se sentent m'appeler tonton, il peut. Ça me fait plaisir, même. Mais je me dis que ça craint de dire tout ça à la fin. J'aurais dû le faire au début. Qu'est-ce qui cloche chez toi, mon Claude? Enfin, bref. M'en voulez pas hein, si je fais les choses de traviole. Hein. C'est la première fois que je gratte le papier pour autre chose que ces lettres d'excuses bidons au proc. Un jour que j'étais marmot, mémé Gigi, elle m'avait dit que je baratinais mieux que le Jules Verne. Que j'avais peut-être un truc. Ce qui fait que du coup, j'ai passé ma vie à baratiner les autres. À le chercher, ce petit truc, vous voyez. Et vlati pas que fallait que j'attende mes 70 balais à poincer toute la sainte journée dans ma piole de prince de Fleury. Pour que je la comprenne enfin, la Gigi. Le truc. Ceux qui grattent des mots comme ils respirent savent de quoi je parle. Je peux pas l'expliquer vraiment, ça se vit de l'intérieur. Je sais pas trop comment vous le dire, c'est... C'est un peu comme le... Non, vous voyez pas? Si, là, le... Les volcans, oui, ils en ont causé sur la 5 l'autre jour, les volcans. Tout le jus de magma qui s'accumule à sous le bide de la Terre et qui vous pète, et au pif, bam! Waouh, c'est exactement ça! L'histoire de Legrand, ça m'a fait cet effet-là. Au début, je croyais que c'était le poisson du vendredi, que j'aurais pas dû becter. Et puis, il y a eu tous ces mots qui se battaient dans ma caboche. Puis cette envie de tirer la feuille blanche, mon stylo, et de gratter à fond de balle. Vous comprenez pourquoi je parle de volcan? C'est à ce moment-là que mon petit volcan à moi, il a pété sa durite. Et Clément ont collé du bic sur le papelard. Et même que je pouvais rien faire contre ça. Elle avait raison, mémé Gigi. Ma vocation, c'est d'être un gratte-papier, un raconteur d'histoire. En gros, un baratineur. Oh, tu te calmes en bas!
Excusez.
C'est Legrand qui refait des siennes. Il est jaloux de mon évolution de carrière. Ah bah ouais. Je vous ai pas dit. C'est mon voisin de cellule. Attendez, faut que je vous raconte. Le curé, c'était pas un cogneur du dimanche. Et quand Legrand s'était réveillé de sa sieste, les flics, rien qu'il l'avait coincé, hein, cette crapule de serpent. Hein. Mais il avait pas imaginé que ce serait lui qu'on remette au placard. J'en ai vu des champions, hein, mais des comme lui, jamais. Tous les journalos en ont fait leur chou gras. Un ex-commissaire qui était passé du côté obscur de la force. Ça faisait les gros titres et des ventes records. On voyait sa tête sur tous les plateaux TV, jusqu'en Argentine. C'était mieux que dans ses rêves les plus fous, vous pensez? Pour un comeback, Legrand, champion du monde toute catégorie. C'était simple. Il avait eu dans l'os du début à la fin. Tout coïncidait. La première disparition et le début de sa dingringolade sociale. La proximité entre les lieux des meurtres et de ses appâts successifs. Et puis, v'là qu'on le retrouvait pile poil devant son atelier d'art. Et le nom aussi. Faut que je vous l'avoue, maintenant qu'on arrive à la fin, la petite signature du serpent en trois lettres, c'était Noé. Et le prénom de ce cher Legrand, je vous le donne dans le mille, Noé, Noé Legrand. Ça paraissait gros comme une maison, mais l'examen de la psy, il disait que c'était un classique pour un sociopathe mégalomane et alcoolique comme Legrand, et encore d'autres qui l'ont pas beaucoup aidé. Hein. À la barre des témoins, ça se poussait au portillon. Le père Morel en tête de liste. Il en a fait de la chair à saucisse du Legrand. Le pauvre boucher malheureux. Pareil pour le Kevin Michou, hein. Il avait capté depuis le premier jour de la filature, la Renault du Legrand. Il s'était mis à hurler au juge que si le bon curé, il s'était pas aussi bien défendu devant la cabane, sûr qu'on l'aurait retrouvé plus tard aussi cramé que le fils Morel. Hein. En plus de tout ça, les Condés ont retrouvé le calepin de Legrand dans sa boîte à gants de la Renault. Pièce à conviction, machin. Alors la balade du Michou dans la forêt, croyez bien que ça pesait pas lourd dans la balance. Hein. Et côté boulot, c'était pas mieux. Il mitraillait façon tonton flingueur. Pas pour rattraper l'autre, hein. Que dans le temps, le Legrand, il avait le melon, que c'était un ripou qui fricotait avec les loubards, tout ça. Hein. Même le Bonnard, il avait pas été de main morte. Trop content de voir son ex-concurrent se noyer dans la vase. Que son fameux coup de fil, c'était que de l'amical, à cause qu'il savait que Legrand, il était au fond du trou, que jamais il aurait demandé quoi que ce soit, blabla. Ah bah, c'était le coup de grâce. Un aller-retour rapide sur le gris de la justice, et il n'y avait plus qu'à le croquer à point, le gibier de potence. Qu'est-ce que tu dis, Legrand ? Et me dit de vous dire qu'il lui tordra le cou à ce curé de serpent. Sois pas rancunier, Legrand, tu verras. On s'y habitue à ce taudis de luxe. Quoi encore ? Il me dit que j'ai pas intérêt à lui voler son histoire, sinon... Ben voyons, oh l'âtre. J'en fais mon héros et il ramène sa fraise. Je vais changer le nom alors. Le petit ou le loser, tu préfères ? Bah tu vois. Eh, tu vas pas me sonner les clochettes pour une petite nouvelle que j'ai gribouillée ? Garde des forces pour quand je sortirai le bouquin. Un genre de biographie de moi-même avec le petit jeu qui va bien. Et le tout depuis ma cellule. Un peu comme Mesrine qui avait sorti son instinct de mort en 77. Petite pensée pour toi, mon Jackie. Oui, bon, j'aurais un peu pompé sur ta copie, je suis d'accord. Réflexe d'un vieux roublard. Et puis qui te dit que ce sera encore ton histoire ? Mon Legrand de littérature, il aurait peut-être une autre dégaine. Peut-être même que ça se passerait chez les Rosbif de l'autre côté de la Manche. Ou que je le ferais évader de tôle. Un happy end, comme ils diraient les Aberlocks. Le petit coucher de soleil, la nana et la vie de château. Vous avez bien compris, les petits potes ? Non, non, pas toi, Legrand. Ce que je vous ai dit, là, depuis le début, c'est que la mise en bouche. Tout le croustillant, les coulisses de l'affaire. Ce sera dans le bouquin, hein. Pas bête, hein ? Allez, faut vraiment que je vous laisse. À moi les paillettes et le showbiz. Et le petit chef-d'œuvre de Bibi, il va pas s'envoyer tout seul, hein. Le petit paquet au fond de l'enveloppe. Plus que le destinataire, ce coup-ci, hein. C'est quoi la rue, déjà ? Ah oui, c'est drôle, ça. Eh, Legrand, écoute voir. Du phénix. Qu'est-ce que t'as pas capté ? Le phénix, quoi. Le piaf qui renaît de ses cendres. L'ironie de la situation. Enfin, bref, je trouvais ça marrant, moi.
L'épluche livre.
Vous allez avoir droit à une recette exceptionnelle.
Inédite. Alors,
que vaut-il pour faire
pas
cette recette ?
Pas grand-chose. Voilà, qu'on coupe en deux.
Bien propre.
Ici, ça va me servir d'épluchure.
Oui, ce livre, il est beau. Il a une belle typographie. Il a une belle gueule. Les livres ont une belle gueule comme les gens.
C'est un peu comme une fleur, en fait. Hein. C'est plein de pétales qui sont en strates, comme ça. Et il s'agit de venir gentiment les dégager.
Quand on lit des livres passionnants, ça devient même très passionnant.
Et je viens gratter, en fait, les premières couches, comme ça.
Lui, ce goût des mots, eh bien, il est resté en moi avec beaucoup de vivacité.
Et on referme le couvercle et on mange des cornichons, de la moutarde.